parfois sur un terrain de foot pour certains. On joue ensemble, d'autres dans diverses réunions. En tout cas, c'est un plaisir. Permettez-moi de vous transmettre, ça j'oublierai pas, les salutations hein, de l'église rue Germain, anciennement rue Germain. Vous savez qu'on n'est plus à la rue Germain. Voilà, donc toutes les salutations fraternelles de cette assemblée où j'ai la chance de pouvoir servir. Je suis ancien à plein temps pastoral, pasteur, ça dépend comment vous appelez cela, voilà, dans cette église depuis maintenant une bonne année et demie. Une autre partie de notre service, c'est de travailler un petit peu aussi sur l'implantation d'églises sur le nord de Grenoble. On redéveloppe, en parallèle de notre travail pastoral, un travail d'implantation sur Saint-Égrève et les environs depuis une année, voilà. Alors j'avais prévu un super transparent, super PowerPoint avec plein d'effets spéciaux, trop bien. Donc vous serez obligé de me réinviter une prochaine fois pour voir la qualité exceptionnelle de mes diaporamas. On va faire ça, j'espère que vous avez vos bibles, je vous invite à les sortir en tout cas. Et j'aimerais commencer le temps que vous sortez vos bibles avec une petite interro surprise pour tester un petit peu vos connaissances en histoire. Alors pouvez-vous me dire quel est le point commun entre les personnages que je vais citer qui ont existé à peu près au XVIIe siècle hein. Donc déjà, ça calme un peu hein, pour ceux qui étaient emballés là de répondre. Alors, je vous cite les noms. Alors, il y a le comte de Tréville, Louis II Sanguin, Charles-François de Froulé, Thomas de Treille de Pardaillan. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Difficile, hein? Alors, peut-être si je rajoute à cette liste d'autres noms, le point commun sera plus évident. Athos, Porthos, Aramis et D'Artagnan. Tous ces personnages ont été des mousquetaires du roi. Et personnellement, quand je pense aux trois mousquetaires, qui, vous le savez, étaient quatre, je pense de suite à leur célèbre devise. Vous connaissez bien ? Exactement, un pour tous et tous pour un. Devise qui avait pour but de symboliser l'unité exemplaire et indissoluble des mousquetaires du roi. Ils étaient unis parce qu'ils étaient sous les ordres d'un seul et même roi, le roi de France. Ils étaient unis parce qu'ils appartenaient à un seul et même corps, qu'on appelait à l'époque le corps des mousquetaires. Alors bien sûr, cet exemple reste imparfait parce que si on creuse un petit peu l'histoire des mousquetaires, on va s'apercevoir que ce n'était pas toujours aussi clair, mais n'empêche que ce désir d'unité était bel et bien présent. Et toute proportion gardée, j'aimerais ce matin nous comparer à des mousquetaires et des mousquetrices, si je peux inventer un mot, du roi des rois. Et donc à réfléchir ensemble au sens de l'unité que nous sommes appelés à vivre dans nos vies personnelles et dans notre vie d'église. Je vous invite pour cela à ouvrir un passage bien connu qui traite sur le sujet de chapitre 4 de l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens 4. Je vais lire du verset 1 au verset 6 pour l'instant. Nous allons déjà voir que c'est une unité à conserver et à atteindre. Éphésiens 1. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Je vais lire dans la version du Semeur. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a appelé à une seule espérance lorsqu'il vous a fait venir à lui. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est dans tous. Alors, je vous rappelle un petit peu le contexte hein, de cette lettre aux Éphésiens. L'apôtre Paul rappelle, notamment au début, que le salut est accessible à tous les hommes et toutes les femmes à partir du moment que ces derniers placent leur confiance en Jésus-Christ et en son œuvre expiatoire à la croix, en son œuvre accomplie à la croix. Et plus précisément, Paul rappelle au début de cette lettre que c'est un seul peuple que Dieu s'est créé par la foi. Juifs et non-juifs, il les a rassemblés par leur union avec Jésus-Christ pour en faire son Église, pour en faire une nouvelle société. Et dans le passage qu'on vient de lire, Paul rappelle qu'étant unis avec Christ, en Christ, ils doivent être unis entre eux. C'est ce qu'on appelle un peu le principe de double réconciliation, n'est-ce pas ? Unis avec Dieu et par conséquence unis les uns avec les autres. Ils doivent vivre dans l'unité comme faisant partie d'un seul et même corps, celui de Christ. Et il est vrai que cette exhortation était encore plus parlante à l'époque de l'apôtre, dans ce contexte d'église locale où se côtoyaient non sans mal des chrétiens issus du judaïsme, hein, qui, en tout cas certains, prônaient un retour au légalisme, hein, d'une certaine manière, et d'autres chrétiens issus du milieu non-juif, du milieu païen, qui eux, certains, ben, prônaient un petit peu une liberté sans équivoque en Christ. Alors je vous laisse imaginer les discussions animées qu'il devait y avoir dans cette assemblée. Et on comprend alors pourquoi Paul croit utile et le fait ici de rappeler, de les encourager à vivre dans l'unité. Mais en y réfléchissant un peu, je crois qu'on n'a pas besoin d'aller voir dans les églises locales primitives pour voir que l'unité est un bien précieux qu'il nous faut conserver. Il suffit de regarder autour de nous, de regarder peut-être soi-même, de se regarder, de sonder ses pensées, de sonder son propre cœur, pour admettre que vivre dans l'unité entre frères et sœurs ne nous est pas naturel, en tout cas pour moi, et que sans cesse il nous faut tendre vers cette unité et tout faire pour la conserver. Je crois que les encouragements que Paul adresse ici aux chrétiens d'Asie mineure sont d'une grande actualité pour nous, chrétiens d'Europe majeure, si je puis dire. Il dit au verset 3, je recite, « Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. » Il semble notamment dans ce verset intéressant de relever deux caractéristiques importantes. La première que je voulais partager avec vous, c'est que cette unité n'a pas pour fondement nos propres efforts, mais elle nous est acquise par Jésus-Christ et par son Esprit Saint. Dernièrement, lors de nos études bibliques de quartier sur Saint-Égrève, nous avons souligné que le fait d'être réunis ensemble était vraiment extraordinaire, indépendant de tous nos efforts. Nous sommes d'origines différentes, d'âges différents, nous n'avons pas les mêmes hobbies, pas le même travail, pas les mêmes centres d'intérêt. On a des arrière-plans et des histoires de vie différentes, mais nous sommes là, rassemblés dans un même lieu, pour étudier la parole de Dieu, pour prier ensemble. Nous sommes en communion fraternelle, les uns et les autres, par ce lien indestructible qu'est l'Esprit de Dieu. C'est extraordinaire, c'est formidable. Et je crois que seul le Seigneur est capable de nous rassembler et de nous unir à lui, et par ricochet, de nous unir les uns avec les autres. Et je crois que c'est convaincu de cette vérité biblique que vous avez pu inscrire sur votre site internet, je suis allé voir un petit peu votre site, c'est cet objectif, hein. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas relevé, allez voir votre site internet, mais c'est écrit vraiment comme un objectif prioritaire pour cette assemblée ici, rue Casimir Perrier, je lis, « Notre but, notre objectif est de rassembler des hommes et des femmes de tout âge, de toute nation, de toute classe sociale, dans le but commun d'être remplis de la vie de Christ » et animé par le Saint-Esprit, afin que chacun puisse accomplir le plan de Dieu pour sa vie et démontrer au monde l'amour et la grâce et la sagesse de Dieu. Voilà l'application, l'objectif de vivre cette unité ensemble et de proclamer, de partager cette unité, cet évangile, bien sûr, d'où provient cette unité, on va le voir, autour de nous. Et peut-être avez-vous remarqué dans le passage qu'on a lu, dans les quelques versets, la répétition des mots « seul », hein, plusieurs fois. Il y a le mot « seul » ou « une seule » qui reviennent. Dans les versets 4 à 6 notamment, ils reviennent 7 fois. Et à 3 reprises, on remarque qu'ils s'appliquent aux personnes de la Trinité, un seul esprit, au verset 4, un seul Seigneur, verset 5, un seul Dieu et Père de tous, verset 6. Et les 4 autres références sont liées à la vie chrétienne en relation avec les 3 personnes de la Trinité. Et je crois qu'on pourrait résumer ces versets 4 et 6 en 3 propositions simples. Il y a un seul corps, l'Église, pourquoi ? Parce qu'il y a un seul esprit. Il y a une seule espérance, une seule foi, un seul baptême. Pourquoi ? Parce qu'il y a un seul Seigneur. Il y a une seule famille chrétienne. Pourquoi ? Parce qu'il y a un seul Dieu, Père, notre Père, Dieu. Et on peut encore résumer un peu plus cela en disant qu'il ne peut y avoir qu'une seule famille chrétienne, qu'une seule foi, qu'une seule espérance, qu'un seul baptême, qu'un seul corps. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et s'il n'y a qu'un seul Dieu, il ne peut y avoir qu'une seule Église. Une Église unie en Christ, unie par Christ et animée par l'Esprit Saint. Nous sommes unis par Christ, en Christ et pour Christ. L'unité nous est acquise par Christ, on l'a dit, et c'est son Esprit Saint qui permet qu'il en soit ainsi. Ce que nous dit le verset 3. Cependant, et c'est là ma deuxième remarque, bien que l'unité nous est acquise par Christ, il n'en reste pas moins que nous devons la conserver. Nous devons la maintenir. Verset 3, efforcez-vous de conserver l'unité. Un petit peu plus loin, faites tous vos efforts pour conserver cette unité. Nous sommes appelés, je crois, à persévérer dans cette unité, à préserver cette unité par l'amour et la paix qui doit régir toutes nos relations. Nous devons démontrer au monde que l'unité auquel Dieu nous appelle n'est pas un triste reflet que l'on peut voir par-ci par-là, mais une authentique réalité déjà effective dans ce monde. Dans un exemple, je me rappelle de ce frère qui, jeunement converti, me racontait que c'est ce qu'il avait touché lors de ses premiers pas dans l'assemblée, dans notre assemblée, ce n'était pas un grand discours, une grande prédication, mais c'était cet amour, cette solidarité, cette unité entre les membres de l'assemblée. Attention, je dénigre pas l'importance de la prédication et de l'enseignement, bien au contraire. Mais je choisis cet exemple pour vous sensibiliser, pour nous sensibiliser au fait que nous sommes appelés vraiment à devenir une nouvelle société qui vit avec de nouvelles valeurs, des valeurs différentes de celles du monde, des valeurs centrées sur le Christ. Et on verra tout à l'heure un petit peu en détail quelques valeurs. Je crois que l'unité à laquelle nous sommes appelés, ce passage, si on décortique un petit peu, nous donne une autre dimension de dire que c'est une unité, mais qui est aussi enrichie par notre diversité, par la diversité. Et c'est ce que va détailler Paul un petit peu dans les quelques versets suivants de ce chapitre 4, qu'on va lire ensemble, donc au verset 7 jusqu'au verset 12. Je propose de lire avec moi. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture. Il est monté sur les hauteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir l'univers entier. C'est lui qui a fait don de certains, comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Verset 12. Je crois qu'il est important de souligner ici ce que fait Paul, que l'unité, que vivre dans l'unité ne veut pas dire vivre dans l'uniformité. Vivre dans l'unité ne veut pas dire que nous devons tous être identiques, comme sortant d'un même moule, car notre unité chrétienne, je l'ai dit, et en poussant un petit peu la pensée de Paul, que notre unité chrétienne est enrichie par la diversité de nos dons. Alors je m'explique, on a vu tout à l'heure que nous sommes appelés à tenir bon dans l'unité qui nous a été acquise par Christ, par son œuvre à la croix, mais cela ne veut pas dire qu'on doit faire la même chose dans l'Église, cela ne veut pas dire qu'on doit chercher à se ressembler en capacité et dans les services. Nous avons des capacités et des dons bien différents qu'il nous faut exploiter pour le bien commun de l'Église. Nous avons chacun et chacune des dons bien spécifiques qui nous sont offerts, qui nous sont donnés par Christ au moment où nous lui appartenons, au moment où nous vivons cette vie nouvelle offerte par Christ. C'est le premier point que je voulais ressortir ici, c'est que les dons, nos dons, nous sont donnés par Christ, versets 7 et 8. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui-même lui donne dans son œuvre. C'est bien ce que déclare l'Écriture, verset 8, il est monté sur les hauteurs et il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Et nous pouvons comprendre ici que c'est Christ qui distribue les dons différents et complémentaires à son peuple, l'Église. Et dans ce verset 8, notamment, Paul emploie ici une image encore plus forte. Il cite un psaume, le psaume 68, qui est un psaume de victoire. Dans ce psaume, on peut y lire que ça décrit un petit peu la montée triomphale de Dieu qui rentre au temple à Jérusalem, qui est semblable à un chef victorieux qui, après avoir gagné une guerre, ramené dans leur quartier général les prisonniers qu'ils avaient faits avec le tribut, le trésor qu'ils avaient pu prendre. Alors, il y a plusieurs interprétations ici quant à l'utilisation que Paul fait de ce psaume 68. Certains identifient les captifs comme étant les puissances mauvaises que Dieu s'est assujetties, et d'autres interprètent les captifs comme étant les chrétiens que Dieu a délivrés du péché. Alors, sans avoir la prétention de vouloir trancher cette question qui est discutée, je me permets juste de partager ce qui me semble, en tout cas, être un petit peu ma compréhension de ces textes-là, ce qui me semble en tout cas être le plus cohérent, ce serait plutôt la deuxième, que les captifs, ce sont plutôt les chrétiens que Dieu a fait prisonniers, a, a pu délivrer d'une servitude pour qu'on puisse être, le servir lui désormais. Il semble utiliser une version du psaume, une version, la version araméenne qui affirme que Dieu s'est assujetti les croyants, dont nous faisons partie, il s'est assujetti les croyants et qu'il en a fait don à l'Église. Et on va le voir que le verset 11 et 12 vont dans ce sens-là. Hein. C'est lui qui fait don, nous dit l'apôtre Paul. Et un petit peu plus loin, il a fait don de ses hommes. Donc ça semble un petit peu, je crois, concorder dans cette piste-là. Dieu a triomphé par Jésus-Christ en nous libérant de la captivité du péché. Esclave du péché et ennemi de Dieu on était, hein, n'est-ce pas ? Paul le rappelle au chapitre 2 de cette même lettre. Et il a vaincu cette captivité-là pour nous faire ses prisonniers à lui. Ses esclaves, n'est-ce pas ? Il le dira notamment aussi au chapitre 3. Il dit « Je suis prisonnier de Jésus-Christ », dit l'apôtre Paul. Dans une autre lettre, dans Romains, il dira qu'on est esclave de Dieu. Il nous a délivrés de notre ancien maître, délivrance de la condamnation, du règne règne et de la conséquence du péché, de la mort, en nous rattachant à un nouveau Seigneur et Maître, Jésus-Christ, son Fils. Dieu nous affecte alors à son service. Il nous met au service de son peuple, au service de l'Église. Dieu nous a racheté un grand prix, hein, le principe de rachat, hein, l'Épître aux Corinthiens. Nous lui appartenons et il nous met à son service pour l'avancement de son royaume. Et notons dans ce passage-là, qu'on a lu ce matin, au verset 7 notamment, que Paul voit tout service, quel qu'il soit, comme une grâce. Et en redécouvrant ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Le mot qu'il emploie ici en grec, alors je ne suis pas un spécialiste du grec, mais en allant chercher un petit peu, on découvre que le sens n'est pas le mot grâce ici n'a pas la notion de salut, hein, mais bien la notion de service, de don. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce. Et c'est vraiment intéressant, je trouve. Paul voit les dons accordés par Dieu comme une grâce. Et moi, je me pose la question, et je vous pose la question, est-ce que nous voyons nos dons comme une grâce ? Est-ce que je vois mon service dans l'Église comme une grâce, comme un privilège ? Les dons nous sont donnés par Christ. Et Paul va un petit peu plus loin en disant qu'il y a des dons, mais il n'y en a pas simplement un, mais il y a une grande variété de dons spirituels. Qu'elle puisse croître, qu'elle puisse se construire dans l'unité. Et pour cela, pour que cette unité soit effective, il donne à l'Église une ribambelle de dons. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, évangélistes, entre autres d'autres comme pasteurs, comme enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service, etc. On l'a lu tout à l'heure. En notant ici que Paul cite ici des dons primordiaux, hein, vitales, qui sont indispensables pour la croissance de l'Église. Mais il n'y a pas que ces dons-là qui soient nécessaires et présents dans l'Église, et heureusement. Hein, 1 Corinthiens 12, verset 4 nous dit « Il y a toutes sortes de dons, mais un seul esprit. » Je crois qu'on dénombre, cherchant un petit peu dans le Nouveau Testament, pas moins de 20 dons différents, mais qui ne constituent pas pour autant un catalogue exhaustif. Il existe sans nul doute une multitude de dons spirituels utile pour l'avancement de l'Église. Une mise en garde cependant, l'unité dans la diversité de nos dons, voilà à quoi notre Seigneur nous appelle. Et c'est seulement dans cette unité, dans la bonne pratique de nos dons, que le corps de Christ est appelé à bien grandir. Le verset 16 de ce même chapitre 4, il est écrit « C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa fortunité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Le corps grandit quand chacune des parties accomplit l'activité qui lui a été confiée. » Principe, hein, le corps grandit, se porte bien quand toutes les fonctions, toutes les parties font ce qu'elles ont à faire. Et je crois qu'on peut voir ici un profond appel à découvrir et à mettre en pratique nos dons, car nous avons, nous dit ce passage, un rôle bien défini et bien particulier au sein de l'Église, et nous sommes responsables de cela. On peut dire en quelque sorte que de ne pas mettre en pratique mes dons empêche une pleine unité de l'Église. Et j'ose le répéter, ne pas mettre en pratique mes dons, auxquels le Seigneur m'a appelé, empêche ou en tout cas ne contribue pas au bien, à la bonne unité de mon Église locale. Et ce passage m'encourage à rechercher activement mes dons, à demander à Dieu de me les révéler. S'il faut d'aller en parler avec les responsables de mon église pour voir s'ils n'ont pas un petit conseil là où vous voyez des dons chez moi, afin de remplir pleinement le rôle que Dieu veut que j'accomplisse et ainsi contribuer à l'unité du corps de Christ, tellement précieuse à Dieu. Combien de fois ai-je entendu des frères et sœurs me dire « Ah, tu sais, moi, les dons, bon, ça ne me concerne pas trop, et puis, moi, je ne sais pas faire grand-chose, hein, je suis un peu nul. Hein. » C'est faux. C'est bibliquement archi-faux. Nous sommes tous et toutes chéris par Dieu, choisis par Dieu qui nous dote tous et toutes de dons bien particuliers. Et je n'aborderai pas ici la légendaire excuse de « je n'ai pas le temps de mettre en pratique mes dons, je suis bien pris, mon travail, la famille. » Car vous l'aurez compris, je crois, je l'espère, si on considère, comme on vient de voir ici, que notre service, que la mise en pratique de nos dons est nécessaire à l'unité du corps de Christ, je crois que ce n'est plus en termes de temps que nous devons raisonner, mais plutôt en termes de priorité. Suis-je prêt à découvrir et à remplir pleinement le rôle que Dieu m'a attribué au sein de son Église? Suis-je prêt à participer personnellement à la bonne marche de l'Église? Est-ce que je considère l'unité comme un bien précieux, non négociable? Vivre l'unité dans la diversité. Et je crois qu'une, peut-être encore une autre caractéristique, et je finirai peut-être là-dessus, c'est que Paul va même plus loin en disant que cette unité-là, ben, elle doit être entretenue. Et il va même nous encourager un petit peu avec quelques qualités pour entretenir pratiquement cette unité. Parce qu'on peut se poser la question, hein, si c'est le cas. Et je crois que vous êtes convaincus, et je l'espère en tout cas, de l'importance de cette unité. Comment faire pour la conserver, cette unité entre nous? Comment vivre soudés, unis, dans cette diversité? Et je crois que l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, avait anticipé cette question, dont il nous donne quelques éléments de réponse au verset 2 qu'on va relire maintenant. « Soyez toujours humbles, nous dit l'apôtre Paul, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Je le relis. Dieu dit « Soyez toujours humbles, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. » Tellement de défis là, hein, en une seule phrase. Paul donne dans ce verset 5 vertus indispensables pour bien vivre et pour conserver notre unité. L'humilité, la douceur, la patience, l'amour et le support mutuel. Je propose de détailler un petit peu rapidement chacune de ces caractéristiques. Alors l'humilité d'abord. Il nous faut savoir que l'humilité était méprisée dans l'Antiquité. Hein. Les Grecs n'utilisaient jamais ce mot-là dans un contexte d'approbation, mais, ni même d'admiration, mais plutôt comme faisant référence à une attitude abjecte, indigne, qui était réservée aux esclaves. Et il ne faudra pas moins que la venue de Christ pour que l'humilité authentique soit reconnue. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort à la croix, nous dit l'Épître aux Philippiens. L'humilité est indispensable à l'unité. Je crois que derrière toute discorde, si on creuse bien, sans vouloir trop m'avancer, je crois que se cache l'orgueil dans la plupart de nos discordes. Si nous voulons conserver notre unité, il faut que nous nous abaissions, que nous nous humilions dans notre service pour le Seigneur et dans nos relations réciproques. Un commentateur a écrit que l'humilité est le plus grand et en même temps le plus simple secret pour l'harmonie. Je trouve ça fabuleux. L'humilité est le plus grand et en même temps le plus simple secret pour vivre l'harmonie entre nous. Vivre l'humilité. Deuxième caractéristique que nous sommes encouragés à vivre entre nous, c'est la douceur. La douceur était une vertu fort prisée, hein, notamment par le philosophe grec Aristote, qui voyait dans ce terme-là la modération, le milieu entre l'excès et l'absence totale de colère. La douceur n'est donc pas synonyme de faiblesse dans la pensée grecque, notamment de l'époque, mais comme étant plutôt vue comme la gentillesse du fort capable de contrôler sa force. Costaud, le fort qui est capable de se modérer, de se contrôler. C'est savoir se maîtriser, c'est savoir se mettre au service des autres. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, dira Paul dans une autre épître. Et notons que la notion de douceur est fortement liée à l'humilité et que ces deux vertus se trouvent pleinement et harmonieusement réunies, vous le savez, dans la personne de Christ qui a pu dire de lui-même, dans l'évangile de Matthieu notamment, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Pourquoi ? Car je suis doux et humble de cœur. » Nous avons là, je crois, un vrai modèle à suivre, un vrai challenge pour nos vies. Deux autres caractéristiques. La patience et le support mutuel que je vais mettre volontairement ensemble parce que je crois qu'elles vont de pair. Elles caractérisent la patience que nous devons avoir envers ceux qui nous exaspèrent, hein, comme Dieu a été patient avec nous. Et également, la tolérance mutuelle est nécessaire pour pouvoir vivre en paix, pour pouvoir vivre la paix que Dieu nous demande de vivre dans notre assemblée. Personnellement, ce qui m'interpelle ici, les mots qui m'interpellent, c'est « supportez-vous ». Supportez-vous. Facile à dire, hein, en théorie, mais dans la pratique, je ne sais pas vous, mais c'est autre chose, hein. Je me rappelle de ce frère, il y a quelques années, qui m'insupportait, mais d'une force, mes amis. Un frère qui, chaque fois que je le voyais, je crois que j'étais convaincu que Dieu l'avait placé là pour ma sanctification personnelle. Et je me suis dit, en passant à ce verset-là, je me disais que j'étais convaincu que si Paul connaissait ce frère en question, il n'aurait jamais écrit ce passage-là. J'étais convaincu de ça. Alors, je rigole un petit peu, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas facile de vivre cette unité. Mais Dieu est clair là-dessus. Si nous voulons vivre dans l'unité, il faut se supporter les uns les autres. Et le mot grec ici utilisé va même plus loin que le fait de se supporter. Ça signifie endurer, bien accueillir, recevoir. Je suis appelé à bien accueillir mon frère, à bien accueillir ma sœur. Je suis appelé à mettre de côté les sentiments contraires à ma nouvelle nature. La haine, le mépris, la jalousie, l'orgueil, etc. Dieu nous appelle à bannir entre nous ces mauvais sentiments qui ne viennent pas de lui et qui créent des divisions, des barrières dans l'Église. En n'agissant pas avec amour, avec douceur, avec patience et humilité, nous atténuons l'œuvre de Christ comme si cette dernière ne suffisait pas. Si Dieu, le Père, Saint et Créateur de toutes choses, accepte mon frère, ma sœur, avec ses défauts, avec son caractère, qui suis-je, moi, pour le rejeter, pour la rejeter, pour le mépriser, pour le juger? Qui suis-je? Je crois que nous ne pouvons pas laisser nos vieux sentiments et notre vieille nature prendre le dessus sur nous et sur nos relations fraternelles. Nous sommes encouragés, au contraire, à tout faire pour préserver l'unité entre nous. Et c'est seulement unis, je crois, que l'Église pourra avancer. C'est seulement si nous avançons ensemble que l'Église pourra avancer sur le chemin que Dieu a prévu pour elle. Dieu connaît bien la tactique de l'ennemi. Dieu connaît bien Satan, il connaît bien sa tactique qui est de combattre Dieu de l'intérieur, de combattre son ennemi de l'intérieur. Et il est facile de comprendre que pour détruire quelque chose, le meilleur moyen qui puisse être, le plus rapide et le plus destructeur, c'est de l'attaquer directement au cœur, directement de l'intérieur. Je ne sais pas pour ceux, ça me fait penser à un film, je ne sais pas pour ceux qui, ça date un petit peu, hein. Il y avait un film qui s'appelait Independence Day avec Will Smith, pour ceux qui se rappellent, c'était un film où il y a une invasion d'aliens, en tout cas sur le monde, en tout cas aux États-Unis. Et il y avait toute une histoire où il fallait en tout cas préserver en tout cas un petit peu la race humaine et puis les héros. Il y avait le vaisseau mère qui était là, et puis impossible, ils tiraient des missiles nucléaires, ça ne rentrait pas. Et puis il y avait une faille, et puis ils se sont dit, on va déposer une bombe, on va rentrer au milieu. On va poser au milieu du vaisseau mère, on va déposer une bombe. Et alors c'est ce qu'ils font, ils y vont. Ils ont plein de petits soucis, tout ça, il y a du suspense et tout. Puis ils lâchent la bombe, ils partent vite. Puis une petite bombe envoie à l'intérieur, ça explose. Et puis de là, on voit tout le vaisseau mère qui explose, et puis tout ce qu'il y a, tous les autres vaisseaux aux alentours. De là, ça fait une réaction en chaîne. Et je crois que c'est bien un peu l'image ici. Là où ça fait le plus mal, c'est à l'intérieur. Le Satan, il sait très bien que si on ne vit pas l'unité entre nous, à l'intérieur, tout le reste ne va pas aller bien. Et c'est là qu'il va attaquer, je crois, au maximum. Partout où une église s'édifie, partout où un foyer s'édifie, où une famille s'édifie, l'adversaire cherche à semer la zizanie, la discorde. Et c'est d'ailleurs pour cela que Paul exhorte toutes les églises à qui il a écrit, à vivre dans l'unité. Toutes, il n'y a pas une lettre. Dans Romains, accueillez-vous les uns les autres, au verset 7 du chapitre 15. En Corinthiens, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord, dans la même pensée, dans la même opinion. Aux Galates, soyez les serviteurs les uns les autres, vivez ensemble. Aux Philippiens, je vous prie de demeurer ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Aux Colossiens, je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés, que unis ensemble par l'amour. Un Thessalonicien, concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instruction, il dit aux chrétiens de Thessalonique. Car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement, à vivre ensemble, à être unis mutuellement ensemble. Il rappelle à tout le monde. Paul était convaincu de l'importance de rappeler cette unité non négociable. Allez, je finis par l'amour, la dernière vertu que Paul souligne ici. C'est la vertu finale qui englobe le tout. L'amour est présent. Elle est certainement la vertu par excellence, qui plus qu'aucune autre vertu possède les propriétés nécessaires pour rendre notre unité indissoluble. Colossiens, un passage parallèle, dit la même chose. Colossiens 3,14, mais par-dessus tout cela, mettez la ceinture de l'amour, car l'amour liera ses vertus parfaitement ensemble et rendra votre communion indissoluble. Un amour, on parle ici d'un amour qui cherche activement le bien de l'autre et le bien de la communauté. Et ça permet de rendre, je crois, notre communion indissoluble. Comment puis-je réellement vivre cette unité si je n'ai pas l'amour? Comment puis-je mettre en pratique la patience, la douceur, l'humilité si je n'ai point d'amour? La vraie question, je crois, n'est pas de savoir si oui ou non je peux supporter mon frère, ma sœur. La vraie question, finalement, est de savoir si avec l'aide de Dieu, je suis prêt à l'aimer réellement pour ce qu'il est, pour ce qu'elle est. Et c'est seulement quand je l'aimerai sincèrement pour ce qu'il est que je pourrai faire preuve d'humilité, de douceur, de patience, etc. Augustin a dit un jour cette belle citation, « L'unité est la forme de toute beauté. » Je trouve ça chouette. « L'unité est la forme de toute beauté. » Pablo Picasso lui-même a dit cette phrase, il dit, « Rien ne peut être fait dans la solitude. » Tout se construit et prend sa valeur dans l'unité. Mes amis, celui qui a changé nos vies, celui qui est venu un jour nous délivrer des mains de Satan et du péché, nous exhorte clairement à vivre dans l'unité. Cette unité a coûté énormément à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Pour nous acquérir cette unité, Dieu a donné son unique Fils en rançon pour nous. Pour nous acquérir cette unité, Jésus-Christ a accepté de donner sa vie pour nous. À nous maintenant, frères et sœurs, de considérer cette unité comme un bien précieux qu'il nous faut conserver. Non pas simplement par nos propres efforts, mais en fixant nos regards sur notre Dieu trinitaire, modèle parfait d'une pleine unité. Je prie que Dieu nous aide à ce que l'humilité, la douceur, la patience, le support mutuel et l'amour deviennent nos qualités premières et indispensables, qui mettront, je crois, de l'huile dans les rouages de notre unité. Mes amis, ne laissons pas l'ennemi faire son travail de sape entre nous. Et si l'Esprit de Dieu vous révèle, qu'actuellement vous vivez une situation pratique contraire à ce que l'on vient de voir ce matin, n'attendez plus, allez sans attendre régler ce problème dans l'amour et dans la paix de notre Maître commun, Jésus-Christ. Mousquetaires et mousquetrices du roi des rois, proclamons ensemble notre devise, un pour tous, car tous en Dieu. Prions ensemble. Seigneur, merci pour cette vie nouvelle que tu nous as offerte, cette vie nouvelle toujours accessible à celui et celle qui veulent bien la recevoir. Merci pour cette grâce imméritée. Seigneur, nous sommes convaincus que tu nous exhortes à vivre dans l'unité, dans nos églises locales. Seigneur, tu nous as rappelé ce matin que Cette unité nous est acquise et nous devons tout faire pour la conserver. Aide-nous, par ta grâce, par ta force, à être convaincus de cela et à tout faire pour jouer le rôle que nous devons avoir dans ce plan-là, Seigneur. Je te demandais pardon pour toutes les fois où ma vie n'est pas conforme, n'a pas été conforme à ce plan-là. Je te prie vraiment de nous éclairer dans tous les domaines de notre vie où on doit progresser, de mettre en lumière les endroits où on n'est pas bon, qu'on puisse se repentir, revenir à toi, se demander pardon les uns les autres et avancer ensemble. Ne laisse pas l'ennemi venir saccager nos vies personnelles et nos vies d'assemblée. C'est toi le maître, Seigneur. C'est toi qui nous dirige, c'est toi le vainqueur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Merci.
Merci David. David nous a invités à vivre l'unité. Il a très bien introduit le moment de Sainte-Cène que nous allons partager ensemble. Je vous invite à rester dans Éphésiens 2, verset 4. « Mais Dieu est riche en miséricorde, et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. » Pour introduire ce moment de Sainte-Cène, je vais laisser le groupe de musique démarrer un chant qui va être lu et ensuite nous allons tous le chanter ensemble et puis j'inviterai les 5 frères à venir me rejoindre pour distribuer la scène.
Jésus-Christ, Jésus-Christ, je repense à ton sacrifice. Tu t'es humilié jusqu'à la mort. Bien souvent, ce don de vie m'a bouleversé et j'en suis ému à nouveau. J'en suis ému à nouveau. À nouveau, je regarde à la croix où tu es mort. Je suis humilié. Brisé par ta miséricorde. À nouveau, je dis merci. À nouveau, je répands ma vie. Aujourd'hui, tu règnes dans les lieux très hauts, où devant mon roi, je m'inclinerai. À présent, émerveillé par ton salut, oui, mon cœur t'exalte à nouveau. Mon cœur t'exalte à nouveau.
Chantons ensemble le numéro 236.
Je vous invite à vous lever.